7h18 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Marc.
Aujourd'hui, vous revenez sur l'Iran avec la radicalisation entre le régime et les oppositions. Vous interrogez Mohamed Reza Djalali depuis Genève.
Voilà, qui est professeur à l'Institut de hautes études internationales de Genève. Bonjour.
Bonjour.
On va insister donc sur le régime puisque nous avions parlé le 4 janvier des oppositions. On peut réécouter l'émission sur franceculture.com. Alors les différentes strates du pouvoir iranien, on y revient encore une fois, ne sont pas toujours aisés à comprendre, à la fois dans leur finalité, dans leur pratique, dans leur dynamique, dans leur interaction surtout, et d'autant plus qu'il s'agit d'un régime peut-être plus divisé qu'il n'y paraît dans le comportement adopté à l'égard des oppositions. Alors des questions simples, quelles sont les structures importantes aujourd'hui? Quelles sont les fonctions les plus influentes? Les hommes forts? Et en cas de divergence appuyée en interne, quels sont les processus de décision, les équilibres entre les pouvoirs exécutifs, législatifs, religieux, militaires, l'armée, le gardien de la révolution? Hier, Madame Clinton, secrétaire d'État américain en visite dans les pays du Golfe, a dit, elle parle maintenant comme une voyante. Nous pensons que dans les faits, les gardiens de la révolution sont en train de supplanter le gouvernement iranien, ce qui n'est pas rien, par parenthèse. Et puis elle dit, voilà comme nous voyons les choses. Nous voyons que le gouvernement iranien, le guide suprême, le président, le parlement sont évincés et que l'Iran va vers une dictature militaire. C'est notre opinion. Fin de citation. Alors que penser de tout cela et quel est l'état de la situation ?
Écoutez, l'état de la situation, surtout après les manifestations du 11 septembre, où le régime, par un déploiement policier sans précédent dans l'histoire de l'Iran, a pu organiser les manifestations officielles, mobiliser des centaines de milliers de personnes. Le guide de la révolution, M. Khamenei, sort en tout cas plus confiant en lui-même. Il a fait une déclaration très intéressante quelques heures après la manifestation en disant que désormais, personne ne pouvait parler au nom du peuple iranien si ce n'est que des gens qui sont dans son entourage. Donc il y a un certain durcissement au sein du régime, mais la crise est toujours là et cette crise crée des divisions au sein même du pouvoir. Il y a bien sûr le guide, mais il y a aussi des personnalités proches de lui qui sont peut-être un peu plus modéré que Ahmadinejad. Je pense au président du Parlement, au maire de Téhéran, qui sont des ultras, mais donc qui sont d'accord aussi quand même d'entamer une sorte de dialogue avec l'opposition. Par ailleurs, il y a aussi autour du guide toute une tendance extrêmement, mobilisée pour combattre très durement l'opposition. Cette tendance est représentée par un certain nombre de membres du clergé, comme Ahmad Jonati, qui est le secrétaire du Conseil des gardiens, ou bien un mollah très influent, Mohammad Tarim Esfa Yazdi, il dirige l'Institut Khomeini. Et de plus, au sein même des pastorans, et des pastorans actifs, des gardiens de la révolution actifs, il y a des demandes pour un durcissement du régime face à l'opposition.
Alors, quelle justement peut être l'influence de ces gardiens de la révolution? Je vois qu'ils sont environ 125 000 combattants répartis dans des unités terrestres, maritimes, aériennes, et qu'ils dépendent directement, est-ce que c'est bien le cas, donc de l'ayatollah Ali Khamenei?
Tout à fait. Les gardiens de la révolution sont aujourd'hui un élément central du système dans la mesure où, bien sûr, ils ont tout l'appareil de répression à leur disposition. Ils contrôlent même les services de renseignement iraniens. D'un autre côté, ils ont une présence politique extrêmement importante de deux manières. Les anciens gardiens de la révolution, dont M. Larijani, le président du Parlement, dont le maire de Téhéran, dont Ahmadinejad lui-même, et ceux qui sont actifs. Il y a aussi une autre dimension qui s'ajoute aux capacités des gardiens de la révolution, c'est que le secteur économique est de plus en plus contrôlé par ces gardiens de la révolution. On estime qu'à peu près 30 à 35% des importations iraniennes viennent par des sociétés liées aux gardiens de la révolution. Ils sont actifs dans de nombreux domaines et donc quadrillent à la fois politiquement le pays et économiquement.
Alors je vois effectivement, donc c'est dans une dépêche, qu'ils tiennent un réseau d'établissements financiers, de compagnies maritimes et d'autres entreprises. Excusez-moi, est-ce que c'est le cas également de l'institution militaire en tant que telle? Est-ce qu'elle a un certain nombre de leviers d'ordre économique ou la question ne se pose-t-elle pas?
L'armée nationale, qui est totalement silencieuse et dont on n'entend presque jamais parler, est néanmoins très liée aux gardiens de la Révolution, mais elle-même, officiellement en tout cas, ne s'implique pas dans les activités économiques et financières, etc. Donc il reste un peu en retrait et théoriquement, l'armée a pour fonction la défense des frontières. Les gardiens de la Révolution ont deux objectifs.
Interne et externe pour les gardiens.
Oui, les gardiens, ils ont aussi une dimension externe. Ils ont une dimension interne pour la sécurité intérieure et ce qu'on appelle l'exportation de la Révolution, la guerre idéologique à l'extérieur. Il y a des brigades des gardiens de la Révolution qui sont impliquées dans les affaires, par exemple au Liban, en Irak, etc.
On se rappelle les années récentes ou les décennies récentes où l'exportation de la Révolution permettait donc de se livrer un certain nombre d'actions terroristes, mais hors frontières.
Oui, bien sûr.
Alors, en cas de litige, juste une dernière question, en cas de litige ou de différends sévères au sein du régime, les processus de décision, qui pourra faire la décision?
Oui, vraiment, jusqu'à présent, c'est essentiellement
le guide.
Et le guide reste quand même la personne centrale de tout l'édifice de la République islamique. Il y a un conseil de sécurité nationale où quelques personnalités du régime interviennent, mais c'est véritablement le guide qui, d'ailleurs, je pense, va renforcer la radicalisation du système parce que ce n'est pas un homme de compromis. Et en tout cas, depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, il n'a jamais montré une ouverture dans ce sens-là.
Et en même temps, le régime n'a pas intérêt à montrer trop ou à étaler trop ses différences, il est divisé.
Oui, il essaie de cacher cela, mais certains aspects sont très difficiles. Par exemple, le fait que M. Rafsanjani a une position très ambiguë, malgré qu'il soit inscrit au centre du système. Il a pris un certain nombre de distances et cela, évidemment, est une difficulté. Et probablement, dans les semaines à venir, il y aura des clashs entre Rafsanjani et le reste du pouvoir.
Merci, Mohamed Reza Djalili. On peut donc écouter également, en ce qui concerne les oppositions, l'émission du 4 janvier, franceculture.com. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut de hautes études internationales de Genève. Nous parlons demain de l'Espagne, Marc.
Merci Thierry Garcin. À demain.